Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un texte qui se trouve dans le dernier livre de notre Bible. Ce livre que nous appelons habituellement l'Apocalypse est aussi appelé Révélation de Jésus-Christ ou Livre de la Révélation. Mes amis, je voudrais que vous partagiez plus ou moins 40 minutes de votre temps avec moi afin d'étudier la parole. Le texte que nous allons voir ensemble est très dense. Il est très dense et il mérite toute notre attention. Alors nous lisons donc dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 14, « À l'église qui est à Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien, nous venons de lire la lettre adressée à Laodicée. Il y a 6 autres lettres écrites elles aussi à des églises d'Asie mineure. C'est Jésus qui s'adresse à ces églises. L'Asie mineure se situe en gros dans le tiers occidental de l'actuelle Turquie. Ces églises diffèrent sensiblement les unes des autres. Dans l'ensemble, ces lettres reflètent quelque chose des villes dans lesquelles elles se trouvent. Lors de la lecture des 7 lettres aux 7 églises, l'une des phrases clés qui revient fréquemment est la suivante, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Cet avertissement est pour nous également aujourd'hui. Ce dimanche matin, entendons l'avertissement de Dieu. Et nous voulons, au travers de ce texte, nous voulons entendre ce que l'Esprit veut bien nous dire aujourd'hui. Et l'Esprit a déjà parlé au travers de ce qui a été dit précédemment par notre frère Daniel. À la lecture de ce texte, ce qui saute premièrement aux yeux, ce qui saute, je dirais, naturellement à nos yeux, c'est la tiédeur du chrétien, à qui Jésus dit « Je te vomirai de ma bouche ». Voici un texte surprenant. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? » En lisant ce texte, j'en viens à me poser cette question. Pourquoi notre Seigneur Jésus semble-t-il préférer les froids aux tièdes ? C'est une question que nous pouvons nous poser et à laquelle nous allons essayer de répondre. Mais avant de commencer à aborder le sujet de ce jour, je voudrais que nous nous attardions quelques instants sur les premiers versets de la lettre, à savoir sur l'identité de notre Seigneur Jésus. La lettre à Laodicée commence par ces mots « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Jésus se présente et il dit qui il est. Il donne ici les points importants de son identité. Au début de la lettre à l'assemblée de Smyrne, Jésus ajoutera « Voici ce que dit le premier et le dernier, qui a été mort et qui a repris vie. » Donc Jésus se présente et il dit qui il est. Il est l'amène, le témoin fidèle et véritable, il est le premier et le dernier, il est mort et il a repris vie, il est à l'origine de la création de Dieu. C'est Jean qui a écrit l'Apocalypse, et c'est lui aussi qui a écrit l'Évangile de Jean. Au chapitre 1er, verset 1 de son Évangile, nous pouvons lire ceci. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Est-ce que nous nous rendons bien compte? Qui est celui qui a écrit les sept lettres aux sept églises? Ce n'est pas n'importe qui. C'est Jésus lui-même. C'est la parole créatrice de Dieu qui a écrit ces sept lettres. Alors, si c'est vrai que lors de son séjour sur cette terre, Jésus, bien qu'il sache lire et écrire, n'a pas laissé d'écrit, on pourrait ajouter, c'est bien dommage qu'il ne nous a pas laissé un texte. Néanmoins, nous avons les évangiles qui relatent ce qu'il dit. Dans ces sept lettres adressées aux sept églises, nous pouvons presque affirmer que c'est Jésus-Christ lui-même qui a écrit ces lettres. À tout le moins, il les dicte à son disciple, l'apôtre Jean. « Écris, lui dit-il, écris ce que je vais te dire. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. » Au travers de ces lettres, nous pouvons voir la sollicitude de notre Seigneur à l'égard des premiers chrétiens. Dès le début du christianisme, Jésus prend soin de son Église. Chose importante que je voudrais souligner, Jésus connaît personnellement, en profondeur, chaque assemblée. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il donne tant de détails dans ses lettres. Le psalmiste nous dit au psaume 139, verset 2, « tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Jésus prend soin de son Église, il prend soin de chacun de nous. Alors nous venons de voir l'identité de notre Seigneur Jésus. Mais quelle est notre identité en Christ? À bien y réfléchir, nous avons tous une certaine opinion de nous-mêmes. Certaines personnes ont une haute opinion d'elles-mêmes, d'autres, c'est tout le contraire. Elles n'ont aucune confiance en elles. Sur une échelle de 1 à 10, nous nous situons plus ou moins facilement par rapport aux autres. Je ne suis ni pire ni mieux qu'un autre. Mais je tiens quand même à le préciser. Je suis mieux que celui-là, je suis mieux que celle-là. L'autre est notre maître étalon. Bien, chers frères et sœurs, je crois que nous nous trompons de maître étalon. Le plus important, n'est-ce pas de connaître le point de vue de celui dont nous portons le nom ? Je veux bien entendu parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes chrétiens, nous portons le nom de Christ. Que pense-t-il de nous? Que pense-t-il de notre état spirituel? Non pas par rapport à nos frères et sœurs, non, mais par rapport à la parole, par rapport à l'exemple qu'il nous a laissé. Ne sais-tu pas? Ne sais-tu pas que tu es malheureux? Misérable, pauvre, aveugle et nu, ne le sais-tu pas? Alors, pour bien comprendre cette lettre, nous devons prendre quelques instants afin de remettre Laodicée dans son contexte historique et géographique. Sans cela, on ne peut pas bien comprendre ce qui est écrit dans cette lettre à Laodicée. Par rapport aux six autres églises, l'Église de Laodicée a ceci de particulier. Elle s'estime autosuffisante, n'ayant besoin de personne. Je suis riche, je me suis enrichi, J'ai fait de bonnes affaires, je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de personne. À tout le moins, c'est ce qu'elle affirme. Riche et opulente, elle revendique sa réussite et ses capacités à surmonter seule ses plus grandes difficultés. Alors j'ouvre ici une petite parenthèse. Nous-mêmes, ne nous arrive-t-il pas de compter plus sur nos propres forces, sur nos propres ressources, que sur le Seigneur Jésus lui-même? Alors si tel est le cas, à notre manière, nous sommes nous aussi autosuffisants. Nous n'avons pas besoin de Jésus puisque nous nous tirons d'affaire nous-mêmes. Et je ferme la parenthèse. Effectivement, comme nous l'apprennent les commentaires et les notes de nos Bibles d'études, Laodicée était une ville importante du point de vue géographique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle se situe dans la Turquie actuelle et elle a été fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ. En 494, après Jésus-Christ, la ville est entièrement détruite par un terrible tremblement de terre. Aujourd'hui, seul reste des vestiges d'un ancien théâtre. Une plaque commémorative rappelle la gloire passée et la richesse de cette cité. C'est l'une des trois villes importantes situées dans la vallée du fleuve Lycos. Les deux autres villes sont Colosse, que nous connaissons bien, la lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens, et Hiérapolis, dans laquelle avait été également fondée une église. Sa position est privilégiée parce qu'elle se situe sur un site naturellement protégé et sur une route commerciale majeure reliant l'Est et l'Ouest. À l'époque où est écrite cette lettre, Laodicée ne manque pas d'atouts ni de ressources. Celles-ci sont d'ailleurs considérables. Sa région fertile est particulièrement adaptée à un élevage de moutons noirs, célèbre dans l'Empire romain. Il en résulte une production massive d'un tissu noir appelé Trimeta. Elle est aussi célèbre pour son centre médical ophtalmologique. Et son fameux collyre est exporté dans toutes les contrées de l'Empire romain. Et enfin, elle est célèbre comme étant un grand centre bancaire. Ses ressources lui permettent même de reconstruire la ville, détruite déjà une première fois, en l'an 60 après Jésus-Christ. Un terrible tremblement de terre avait détruit la ville. La ville a été reconstruite sans l'aide du gouvernement romain. L'église locale de Laodicée s'associe à la réussite de sa ville. Elle se croit donc autosuffisante, alors qu'en fait, elle n'est que suffisante, c'est-à-dire orgueilleuse. Cette suffisance masque avec peine son véritable état spirituel. À vomir. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus. Riche, la ville l'était. Pourtant, il lui manque quelque chose d'important. Il manquait à la ville un approvisionnement naturel en eau. Et c'est ainsi que des tuyaux lui amenaient l'eau des sources chaudes de Hiérapolis, un endroit éloigné de 10 km environ. Quant à elle, l'eau froide d'une pureté de cristal, elle lui venait d'un torrent de montagne se situant près de la ville de Colosse. Les habitants de Laodicée étaient confrontés à un problème. L'eau qu'ils recevaient froide ou chaude lui parvenait tiède. D'un côté, l'eau chaude se refroidissait pendant son parcours et d'un autre côté, l'eau froide se réchauffait. Malgré leur richesse, cela était continuellement pour eux une cause de tourment, car cet ensemble d'eau devenue tiède était si écœurante que généralement on la recrachait. L'image des Laodicéens, ni chaud ni froid, mais tiède, a traditionnellement été comprise comme une image de leur manque de ferveur spirituelle, de leur manque d'engagement à Christ. Nous avons déjà certainement entendu dire au moins une fois dans notre vie de chrétien, que les tièdes, ce sont ceux qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur, ce sont ceux qui ont le cœur partagé. Jésus dit de ceux-ci, « Je les vomirai de ma bouche. » Dans le passage que nous venons de lire, Jésus désire qu'ils soient soit chauds, soit froids. Ce qui implique que les deux extrêmes sont vus positivement par notre Seigneur Jésus. Alors Jésus souhaiterait-il que nous soyons froids? Dans nos églises, le froid est généralement perçu par la plupart des chrétiens comme étant quelque chose de négatif. Les froids ne connaissent pas le Seigneur. Ce sont des chrétiens de nom. Ce ne sont pas de vrais chrétiens. Si seulement ils connaissaient la grâce de Dieu, ils seraient bouillants et pas froids. Manifestement, Jésus dit à l'église de Laodicée, « Je veux que tu sois froid ou bouillant. » Soit l'un, soit l'autre, mais surtout pas tiède. Alors que pourrait bien signifier ce passage? Dans une assemblée en bon état de fonctionnement, il devrait y avoir des chrétiens bouillants. Si possible, beaucoup de chrétiens bouillants. Ces chrétiens brûlent dans leur témoignage. Ils brûlent dans la prière, dans la louange. Ces chrétiens bouillants ont un zèle absolument exemplaire. Mais il y a dans la même assemblée des gens qui accomplissent un service plutôt silencieux. Ils sont calmes, pondérés, pas un mot plus haut l'un que l'autre. On ne les remarque pas. Ce genre de chrétiens ne cherche pas la première place. Même si nous devons tous partager la bonne nouvelle du salut, et c'est d'ailleurs une caractéristique du chrétien, le partage de la bonne nouvelle du salut est une caractéristique du chrétien. Eh bien, il y a une autre catégorie de chrétiens à qui il n'est pas donné, naturellement, de prendre la parole, non plus d'aller vers les autres pour prêcher l'Évangile. Ces chrétiens sont souvent considérés comme froids. Par contre, ils fonctionnent à leur manière pour répandre une parole de consolation. Tout comme les eaux de Colosse, ils sont rafraîchissants. Ils apportent une parole de rafraîchissement auprès de ceux qui ont besoin d'un soutien. On se sent bien en leur présence. Des âmes abattues, souffrantes, trouvent de l'encouragement auprès d'eux. Ces chrétiens silencieux sont plutôt portés à la réflexion tout en étant remplis de l'Esprit-Saint. L'eau chaude de Hiérapolis avait un effet médicinal, tandis que l'eau froide de Colosse était pure, potable, et elle avait de ce fait un effet bienfaisant, un effet rafraîchissant. Comme nous venons de le voir, ces deux types d'eau, froide ou chaude, sont deux types de chrétiens différents. En tant que telle, l'eau chaude devenue tiède ne pouvait plus servir de thérapie. Tout près de chez moi se trouve Chaudfontaine. Savez-vous que l'on vient de très loin, on venait en tout cas de très loin, pour prendre des bains d'eau chaude. Il y a un monument qui reprend les températures différentes des bains de Chaudfontaine. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait trois sources. Trois sources, trois températures différentes. Été comme hiver, les températures des sources étaient constantes. La température constante des sources était importante dans le processus de guérison. Tiède ou froide, ces eaux deviennent inutiles et elles ne peuvent plus servir à la guérison des malades. Maintenant, si je prends l'exemple des eaux de spa, les eaux de spa sont aussi thérapeutiques, mais je vous mets au défi de prendre du plaisir à les boire, parce qu'elles dégagent une telle odeur de soufre que c'est difficilement supportable. Eh bien, il en va de même pour l'eau de Hiérapolis. Tandis que l'eau froide de Colosse, elle aussi devenue tiède à cause de son long parcours pour arriver à Laodicée, eh bien, l'eau est devenue tiède. Elle n'était donc plus rafraîchissante, d'autant plus que les deux approvisionnements en eau étaient mélangés. Le Seigneur Jésus ressuscité et glorifié transmet à cette Église un message de vérité sur son état spirituel. Tiède. Mélangés. Ils étaient mélangés comme leur eau, ni froid en vue d'être rafraîchissant, non plus bouillant afin de servir de thérapie. Tiède. Tu es tiède, inutile à vomir. Notons au passage que Jésus n'est pas présent dans l'assemblée. Il est à la porte. Il est à la porte et il frappe. Ce verset que nous connaissons tous n'est pas adressé seulement aux non-croyants. Il est aussi et surtout adressé aux croyants. Verset 20, « Me voici debout Sous-entendu, je me tiens devant la porte de l'assemblée de la Odyssée. Je frappe si quelqu'un est sensible à mon appel. S'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête. Moi près de lui et lui près de moi. Jésus est à la porte. Il est à l'extérieur de l'église de la Odyssée. Je connais ta vie. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid, ni bouillant, ni l'un ni l'autre, comme je voudrais que tu sois l'un ou l'autre. Mais puisque tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Mes amis, ce verset devrait nous faire réfléchir. Jésus connaît ma vie. Il connaît mes œuvres. Il sait de quoi je suis fait. Il connaît mon cœur. Il connaît mes motivations. Il connaît mes pensées avant même que celles-ci ne viennent à mon esprit. Jésus reproche à l'église de Laodicée de n'être ni froid ni bouillant. Les chrétiens de Laodicée sont donc comparés à l'eau de leur ville, tiède, imbuvable, à vomir, à gerber. Cette tiédeur est donc impropre. Elle est impropre pour le témoignage et le ministère des chrétiens de cette ville. Le salut ici n'est pas remis en question. Alors, pourquoi surtout pas tiède ? Pourquoi la tiédeur est-elle repoussante pour le Seigneur Jésus ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Laodicée n'était ni bouillante ni froide. La tiédeur la caractérisait. Les chrétiens de Laodicée ne brûlaient pas dans l'esprit. Leur action n'était pas non plus rafraîchissante. Ils étaient comme leur eau, ils provoquaient chaque jour de l'irritation. Les Laodicéens étaient des chrétiens par habitude. Généralement, ce genre de chrétien est insatisfait dans le domaine spirituel. Alors pourquoi, me direz-vous ? Eh bien parce que ce genre de chrétien a pratiquement tout ailleurs que dans l'Évangile. Il ne trouve pas de satisfaction à l'Église. L'Église l'ennuie. Les cultes, l'ennui, les chants ne correspondent pas à ce qu'on entend dans le monde. Il ne trouve pas de satisfaction non plus avec ses frères et sœurs. On s'amuse beaucoup mieux ailleurs que dans les églises. Il ne trouve pas de satisfaction dans la foi au Christ ressuscité, vainqueur de la mort, élevé à la droite de Dieu. Il ne trouve de réelle satisfaction que dans ses richesses. Dans son or, dans l'argent, dans les textiles, dans ses commerces, mais pas en Dieu. C'est un chrétien par habitude. Quand tout va bien, reconnaissons-le, c'est facile de s'adapter au monde d'aujourd'hui. Nous sommes si facilement enclins à trouver notre satisfaction dans les valeurs du monde dans lequel nous vivons si bien, si confortablement. Les Laodicéens s'adaptaient, eux aussi, facilement au monde ambiant. Un évangéliste célèbre, Anton Schultz, a dit un jour cette phrase : « Les murs des assemblées sont devenus si minces, ils sont devenus si transparents, qu'ils ne nous séparent plus de rien. Nous sommes en train de nous adapter au monde. » Cet état de tiédeur inspire du dégoût au Seigneur, car il ne le sert pas. Non, il ne le sert pas. Le chrétien tiède ne sert pas le Seigneur. Il se sert du Seigneur. Oui, il se sert du Seigneur afin de trouver encore plus de satisfaction, si c'est possible. Mais il ne le sert pas. Un christianisme bien pesé, formaté, figé dans un pur formalisme, tiède, est en horreur au Seigneur Jésus. Notre monde n'a nul besoin d'un tel système. Notre monde n'a nul besoin de religieux. Lisez les évangiles et vous verrez. Jésus n'a jamais apprécié les religieux. Les scribes et les pharisiens lui sont en horreur. Notre monde a besoin de chrétiens, d'hommes et de femmes, de foi, qui se tiennent prêts, tout près de leur Seigneur, à genoux, au pied du Maître. Cette lettre à Laodicée nous interpelle, en tout cas moi, elle m'interpelle plus particulièrement. Le chrétien du XXIe siècle est-il par définition un chrétien tiède ? Suis-je un chrétien tiède ? Fait en demi-mesure, quelle est ma température ? Manquons-nous d'amour pour notre Seigneur ? Un jour, une maman demande à sa petite fille « Combien m'aimes-tu ? » Et la petite fille donne cette réponse étonnante « Je t'aime jusqu'au dernier chiffre. » Seigneur, je t'aime jusqu'au dernier chiffre. Pouvons-nous dire cela ? Ou devrions-nous plutôt dire « Pardon, Seigneur, pardon de ne pas t'aimer jusqu'au dernier chiffre. » Toutefois, Jésus n'abandonne pas l'assemblée de Laodicée à son triste sort. Ses propos sans concession ont pour but non pas de la condamner, mais plutôt de la réveiller. En fait, Jésus lui dit « Tu ne sais pas, non, tu ne sais pas comme tu es malheureux, misérable, tu es pauvre, nu et aveugle. » Quel constat ! Quel constat, mes amis ! Je dirais même, quelle ironie ! Tu es pauvre, nu et aveugle. Eh bien, nous allons voir ensemble ces trois mots. Première allusion, pauvre. Jésus recommande à cette ville d'acheter chez lui, certes sans argent ni or. Mais de qui se moque-t-on ? Voilà une première allusion à peine cachée, une allusion sur sa pauvreté spirituelle. Pauvres, ils sont pauvres tout en ayant de l'or et de l'argent en abondance. Les riches ne font pas bon ménage avec la foi. Souvenons-nous de la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Jésus lui dira « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres ». Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Deuxième allusion, nu. Achète de l'or purifié au feu, achète aussi des vêtements blancs, pourtant couvrir et n'avoir plus la honte de paraître nu. Là aussi, Jésus se sert d'une image forte. Rappelons-nous que cette ville, et nous en avons parlé tout à l'heure, cette ville est réputée pour ses tissus de couleur noir. En opposition au noir, les vêtements blancs sont synonymes de pardon et de pureté. Quant à la nudité dans l'Ancien Testament, elle est signe de défaite, de jugement, de pauvreté. Dans la Rome antique, lors du triomphe, les vaincus étaient dépouillés de leurs vêtements, ils étaient nus et ils précédaient le char du général couronné de lauriers. Et finalement, une troisième allusion. N'oublions pas, mes amis, que cette ville est mondialement connue pour son collyre. Notre Seigneur Jésus leur propose d'acheter un remède pour soigner leurs yeux et ainsi leur rendre la vue, afin de voir clair, afin que tu acquières un discernement spirituel sur ta propre situation. Tu ne te rends pas compte, tout riche que tu es, tu ne te rends pas compte à quel point tu es misérable, pitoyable. S'il y a quelqu'un de pauvre, s'il y a quelqu'un d'aveugle, s'il y a quelqu'un de nu, c'est bien toi. Non seulement Jésus ne laisse pas tomber son assemblée, son église de Laodicée, mieux encore, il la reprend. Il la reprend afin de la corriger, de la guérir de sa cécité spirituelle. Et nous lisons au verset 19, « Moi je reprends et je châtille tous ceux que j'aime. » Et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle, car être châtié par Dieu le Père, c'est un signe que nous sommes bien ses enfants et que nous faisons bien partie de sa famille. Au verset 18, Jésus recommande d'acheter chez lui sans argent ni or, mais d'acheter quand même. Parce que la grâce, mes amis, la grâce a un coût. La grâce a un coût élevé et je ne peux pas passer sous silence le prix de la grâce. La grâce a un coût élevé. La grâce, c'est le prix payé par le Seigneur Jésus sur la croix. C'est ça, le prix de la grâce reçu gratuitement pour tous ceux qui croient. Le prix a été payé, il a été chèrement payé par Jésus sur la croix. Il s'est donné lui-même, il s'est offert afin que nous ayons la vie éternelle. Mais voyez-vous, la grâce a ses exigences et nous n'en parlons pas, ou alors trop peu. La grâce exige d'abord notre repentance et il est fait mention de la repentance dans la lettre que nous venons de lire, dans la lettre à Laodicée. « Repens-toi, dit le Seigneur Jésus. » S'il n'y a une réelle repentance, il n'y a pas non plus une réelle conversion. Ensuite, la grâce exige le renoncement à nos illusions, le renoncement à nos prétentions, à notre autosuffisance. « Je suis riche, j'ai réussi, je n'ai besoin de personne. » Et enfin, la grâce exige notre obéissance. Être continuellement dans une attitude de repentance nous fait changer de point de vue et de direction, de sorte que nous ne sommes plus alignés sur les valeurs du monde, mais nous sommes alignés sur Christ. C'est lui notre maître étalon, afin de marcher avec lui à sa suite. La repentance est un signe que nous sommes bien réveillés, ranimés, passés de la mort à la vie, en bonne santé spirituelle. La repentance, c'est tout le contraire de l'autosuffisance. La lettre à Laodicée nous met en garde. Des 7 lettres adressées aux 7 églises, c'est l'église de Laodicée qui reçoit le moins d'éloges. C'est elle qui reçoit le plus de reproches. Cette église reflète trop fidèlement son environnement. L'assemblée de Laodicée lui inspire à Jésus, elle lui inspire le même dégoût que les eaux de la ville. Elles ne sont ni pures et fraîches, comme celles de Colosse, ni chaudes et thermales, comme celles de Hiérapolis, mais franchement repoussantes. Elles n'ont pas la fraîcheur ni la chaleur qui les rendrait utiles. Elles sont répugnantes et provoquent des nausées. Pour conclure, une chose importante dont Laodicée doit certainement se repentir, c'est de s'être crue riche et autosuffisante. Alors que celui qui devrait être son tout, celui qui devrait être son fondement, ne se trouve pas dans l'assemblée. Ne le cherchez pas, il n'est pas là, puisqu'il est à la porte. Et personne, et ça mes amis, c'est bien malheureux, personne dans cette église ne semble s'être rendu compte de son absence dans l'assemblée. Jésus déclare en effet se tenir, et il continue de se tenir, à la porte, et il continue de frapper. Tout comme l'église de Laodicée aujourd'hui, nous recevons une invitation chaleureuse de la part de notre Seigneur. Repens-toi. Repens-toi et reviens à moi. Je suis à la porte et je frappe. Cette invitation demeure toujours actuelle. Elle est adressée aux membres de l'église. Mais elle est aussi adressée à toute personne qui entendrait ce message et qui aurait le cœur touché par l'amour de notre Seigneur. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il est mort sur une croix afin que tu obtiennes le pardon de tes péchés. Il est mort sur une croix pour que tu puisses faire la paix avec Dieu son Père. Repens-toi et reviens à une communion vitale avec Christ. Qui, c'est la question qui est posée, qui aujourd'hui veut avec moi recevoir cette merveilleuse promesse de la présence de Jésus à notre table? Si nous lui ouvrons la porte, nous souperons ensemble. J'entrerai chez toi et nous dînerons en tête à tête. Moi près de toi et toi près de moi. Jésus frappe encore aujourd'hui il attend notre réponse. Amen. Prions. Père éternel, nous avons entendu ta parole, nous avons entendu ton invitation. Que nous soyons protestants de longue date ou catholiques, peu importe notre religion, nous savons que tu n'aimes pas les religions, et tu n'aimes pas non plus les religieux. Ceux que tu aimes, ce sont tes enfants. Ce sont tous ceux qui ont accepté le sang du Christ afin de couvrir leurs péchés. Aujourd'hui, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, nous voulons renouveler ton alliance. Nous voulons te dire, viens, viens Seigneur Jésus, viens, nous t'invitons à notre table. Nous sommes prêts à renoncer à nos prétentions, à nos illusions, à notre autosuffisance. Je suis riche, j'ai réussi, je n'ai besoin de personne. Seigneur Jésus, ce n'est pas vrai. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Nous renonçons à notre vie de péché. Nous renonçons à vivre une vie sans foi ni loi. Nous implorons ton pardon et nous nous repentons de nos péchés. Prends les rênes de notre vie. Prends les commandes de notre vie. Jésus, nous te le demandons. Viens à notre table. Amen.